Salut, bon lundi. J'espère que vous allez bien. C'est un lundi de pédagogique. Ça paraît sur les réseaux routiers aujourd'hui. Mais je dois vous dire que c'est pas trop facile dans le coin de Saint-Augustin, Cap-Rouge. Il y a des travaux sur des lampadaires sur la 40. Fait que ça fait quelques ralentissements dans la région. Bien le bonjour à tous ceux qui sont en voiture. On a fait vos services il y a quelques secondes. Bien le bonjour à tous ceux qui travaillent et ceux qui sont de retour au travail aussi suite à cette longue semaine de relâche. J'espère que vous en avez profité, mais des fois, il y a des parents qui disent « Ouais, retourner au travail, c'est un peu ça notre relâche parfois après cette semaine-là. » Mon nom est Pascal, je remplace Max, comme vous avez compris, fort probablement. Max qui est allé faire un petit tour dans la métropole. Alors, il est à Montréal, il en profite, il va revenir dès demain. Ne pas s'inquiéter. Vous êtes toujours sur les ondes de boulevard 102.1. Dehors, c'est 2 degrés. Température printanière. On le sent avec le changement d'heure aussi. Je sais pas si ça a un effet sur vous. 88-971-1021. Le sentez-vous dans votre corps ce matin? Ou encore pas du tout, puis on passe à autre chose. Mais peut-être qu'un jour, on ne le changera plus, comme certains ont décidé de le faire la semaine dernière. Écoutez, cette semaine, je peux vous dire que ça sent le printemps. Mais qui dit printemps dit pluie. Et c'est le cas pour aujourd'hui. Alors, vous l'avez vu dans vos fenêtres, vous n'êtes peut-être pas encore sorti, vous le sentirez, mais c'est vraiment alternance soleil-nuage pour cet après-midi. Mais d'abord et avant tout, c'est vraiment des averses qui sont attendues pour la journée. 8 degrés, c'est le maximum. Comme je vous disais, il fait 2, on ne l'a pas atteint. 0 degrés comme minimum. Demain mardi, on est à 6 et on va avoir une pluie intermittente mêlée de quelques flocons de neige. Sinon, ben, pour le reste de la semaine, c'est un peu gris. Fait qu'il va falloir trouver notre soleil ailleurs. Peut-être pas dans l'actualité parce qu'on doit se le dire, en fin de semaine, ça a été particulièrement tragique ce qui s'est passé dans notre région. Le genre de nouvelles qu'on veut pas lire, le genre de nouvelles qu'on veut pas vivre dans la communauté. Fait qu'on pense à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par cet accident mortel d'autobus à Sainte-Rose de Watford. La jeune victime qui a été identifiée dans les dernières heures, on a eu le nom de Xavier Landry Rousseau, 13 ans seulement, qui a perdu la vie samedi dans cette sortie de route d'un autobus. Il était originaire de Scott en Beauce et c'est vraiment la victime de l'accident qui a fait 4 blessés graves et 10 blessés mineurs. Ce matin, ben c'est sûr, on voit dans l'actualité des témoignages de proches, de gens qui ont vu la scène d'horreur, mais ça nous ramène toujours sur le plancher des vaches quotidien de se dire « Hey, il faut se le dire qu'on s'aime pendant que c'est le temps. Faut pas partir de la maison en brouille. Faut assurément profiter du temps qu'on a en ce moment. » Moi, j'ai tellement le cœur brisé pour la famille. J'envoie toutes mes pensées les plus sincères à ceux qui ont éploré dans ça. Puis je pense que ce qu'on peut faire pour essayer de tirer un minimum de ça, là, quoi qu'on peut pas tirer quelque chose, c'est sûr de ça, c'est de s'assurer qu'on dise aux gens qu'on aime, qu'on les aime quand c'est le temps. Il faisait partie de ces groupes de cadets-là qui prenaient place dans l'autobus jaune pour aller à une compétition de tir à air comprimé. Et ça, c'est pas mal la nouvelle tragique de la fin de semaine, je vais vous le dire. On n'en prendra pas d'autres, si possible. Puis on pense énormément au projet Xavier Landry Rousseau. En nouvelle, sinon, ben, nouvelle règle en immigration, ça fait jaser, bien sûr, Ottawa qui serre la vis à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile. On a fini la semaine là-dessus on commence la semaine là-dessus. Avocat organisme, on s'attend à ce que les changements provoquent beaucoup d'incompréhension, de confusion, de frustration. On est là-dedans, mais il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui sont au pays, là, qui sont sur notre territoire en ce moment au Canada, qui soudainement voient leur chance de trouver refuge au Canada compromise. Et ça, ça fait jaser. Un peu en contradiction aussi aux nouvelles qu'on a eues la semaine passée, comme quoi ils auront droit aux garderies subventionnées. Ça fait tellement jaser ce dossier-là en ce moment. On se demande si au provincial et au fédéral, on a un peu cette grippe-là en vue des prochaines élections, du moins au provincial, mais aussi pour remanier le tout, chose qui est très sensible, qui était fragile. C'est un projet de loi qui s'appelle Omnibus C12 et aujourd'hui, c'est la dernière étape au Sénat. Donc, on prévoit une série de changements, puis c'est pour renforcer l'intégrité des systèmes d'immigration et d'asile au Canada. Il y a des mesures qui ont été adoptées par les libéraux de Mark Carney. C'était en décembre dernier et là, on est vraiment dans un revirement flagrant face au discours qui était migratoire inclusif, dans lequel on est habitué avec Justin Trudeau et qui a fait polémique et qui a fait jaser. C'est toujours cette question-là d'immigration qui reste sensible, fragile sur plein de points. En santé, en logement, avec la crise du logement, au niveau également de l'éducation, on fait quoi avec ça? Des services, les garderies, on en parlait la semaine dernière. Est-ce qu'on parle d'immigration de demandeurs d'asile ou de gens qui viennent ici pour travailler, pour trouver une nouvelle vie, mais qui n'ont pas besoin de s'échapper de quelque chose? Est-ce qu'on est assez contraignant? Est-ce qu'on est assez sécuritaire dans nos façons de les accueillir? Écoute, c'est des questions qu'on peut se poser là, pendant des semaines et qui fait assurément beaucoup réagir. Déjà, par Twitch, twitch.tv/BLVD/FM, vous en jasez. C'est sûr qu'on va continuer de le faire pendant l'émission et on va rejoindre plus tard Victor Henriquez, notre analyste politique, entre autres sur cette question-là. Et il y a eu à Québec un genre d'ex-maire qui a décidé, qui prenait la parole sur la crise en itinérance ici, dans notre ville, et c'est le maire Labeaume qui est sorti de son mutisme. Ben, mutisme, je peux-tu vraiment dire ça? Mutisme partiel, parce qu'on le voit, oui, faire de la chronique, on le voit aussi prendre la parole sur divers enjeux, même s'il ne veut pas jouer à la belle-mère. Et cette fois-ci, c'est dans le soleil aujourd'hui, on parle du déménagement de l'Aube-Rivière. On dit qu'il fallait penser gros parce que Régis Labeaume, ex-maire de Québec, avait vu ça venir. C'est une période, au moment où il était en mandat, très charnière au niveau de cette itinérance-là, provoqué par plein de choses, et les demandes grimpaient déjà. On parle à Éric Boulay, aujourd'hui directeur de l'Aube-Rivière, un peu plus tard à l'émission. Nomination partisane, on va dans le gouvernement de François Legault. François Legault qui a claqué la porte. Bon, il l'a pas claqué de façon très, 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 très intense, mais il l'a fermé, peut-être contre son gré. Quelqu'un a tiré dessus dernièrement, donc il va quitter la politique. Mais avant de quitter, il veut s'assurer que c'est fidèle. Hein? On le voit un peu comme Jésus autour de sa table de fidèles. Ceux qui sont encore là, qui ont resté fiers, qui ont resté droits, bien, aura encore une place autour de la table. C'est un peu ce qu'on veut faire du côté de la politique provinciale, du moins avec la CAQ et François Legault, parce qu'il veut placer ses fidèles en poste avant de quitter. On veut prolonger des mandats. On veut également être certain qu'ils se présentent aux prochaines élections. On veut qu'ils conservent leur place dans la haute fonction publique malgré un éventuel changement de gouvernement. Alors, François Legault va quitter ses fonctions. Je vous rappelle, le 12 avril prochain, mais décide qu'il fait sa dernière loi. Mark Carney aussi a discuté avec Donald Trump et en fin de semaine, ça a été une longue fin de semaine dans cette guerre en Iran. Je peux vous résumer, en fait, le week-end du 7-8 mars, j'en ai fait un certain devoir en fin de semaine. Il y a eu des frappes massives américaines et israéliennes en Iran. On a eu une riposte iranienne contre Israël et les pays du Golfe. Il y a eu un nouveau guide suprême iranien qui a été nommé, le fils de l'autre. Le conflit s'étend régionalement également. Et le pétrole, l'économie mondiale, s'est fortement affecté. Pourquoi? Bien, vous allez le voir dans vos finances, mais le prix du pétrole a dépassé 115-120 $ le baril, c'est le plus haut niveau depuis 2022. Et là, les marchés craignent une perturbation dans le détroit d'Ormuz. Que le premier ministre de la France, Emmanuel Macron, a mis sur sa liste de priorités aujourd'hui. Lui, il a dit, ben, va falloir que ça débloque et va falloir que ça débloque de façon sécuritaire. Puis ça, on va en parler dans quelques instants aussi avec Valérie Beaudoin, analyste en politique américaine qui va se joindre au Point de Max. Restez là. Merci beaucoup d'avoir choisi Boulevard 102.1 ce matin en ce lundi 9 mars. Portez-vous bien et manquez pas Valérie dans quelques instants. Vous êtes dans le Point de Max en ce lundi 9 mars. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous, mais aussi bonne continuité à tous ceux qui écoutaient le matin. Aujourd'hui avec Yannick Marceau, Mathias Turcotte et Jeff Fortin. Oui, Mathias était là parce que Max est en congé. Je m'appelle Pascal et je le remplace pour toute la durée du Point de Max aujourd'hui. Sinon, on se retrouve ce midi, avec Jeff Fortin également. Vous m'avez posé une petite question pendant la pause. Vous m'avez dit, c'est quoi la nouvelle qui t'a le plus surprise aujourd'hui? Merci à l'auditeur qui le fait par texto. Je dois dire que j'ai hâte de parler de Gilles Vaillancourt. Qui? Gilles Vaillancourt, l'ex-maire de Laval, à qui on doit envoyer un chèque d'environ 1 million de dollars pour qu'il puisse payer ses impôts sur de l'argent volé. Rappelez-vous, cette saga-là, il y a quelques années, une certaine commission qui est associée aussi à M. Vaillancourt. Mais écoutez, je mets ça sur pause parce qu'on a bien des chats à fouetter aujourd'hui, mais on va en jaser tantôt avec nul autre que Victor Henriquez. Mais pour l'instant, très contente de l'accueillir ici dans l'émission à Boulevard 101. C'est Valérie Beaudoin qui est au bout du fil, analyste de politique américaine. Salut Valérie!
Salut!
C'est une grosse journée encore. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on t'amène à parler avec nous, à collaborer à une émission, on dit « Valérie, c'est une grosse journée. » Ça fait combien d'années que c'est lourd ou que c'est grand ou que c'est gros puis qu'on a de la nouvelle comme ça?
Écoute, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas de nouvelles hein, comme ça, mais je te dirais que particulièrement le début 2026, ma chère Pascale, est assez occupée, assez intense, donc c'est difficile même pour quelqu'un qui a le nez dedans tous les jours de même couvrir toutes les nouvelles qui sont sorties aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr. Puis en fin de semaine, ça en a été une grosse au niveau de la politique américaine. Souvent, on va aller jaser pas mal plus en semaine quand on est dirigeant. On veut que ça fasse les nouvelles, on veut que ça fasse les manchettes. Mais dans la stratégie Trump, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est, on en parle tout le temps, le plus possible. En fin de semaine, je voyais qu'à l'international, il y avait des gens qui s'étaient prononcés, notamment des richissimes, là, des très, très riches dans les pays du Golfe qui disaient, ben voyons, pourquoi on se fait attaquer maintenant? Entre autres, parce que Donald Trump a une influence sur cette guerre en Iran. Il y en a qui étaient subjugués par ça. Puis, bon, bien sûr, l'Iran se défend en disant, ben nous, on vise les institutions américaines, on ne vous déclare pas la guerre, mais ça reste que pour eux, c'est n'importe quoi de voir leur pays se faire détruire dans une guerre qui n'est pas la leur. Et c'est comme ça qu'ils la décrivent. Il y en a même qui disaient, bon, Donald Trump se voulait président de paix, c'en est tout autre. Tout ce qu'il reprochait à Biden, finalement, il l'a dépassé dans quelques mois de son deuxième mandat. Mais Valérie, en fin de semaine, Donald Trump et Mark Carney se sont entretenus. Ils ont eu une conversation hier, se sont posé certaines questions sur leur façon de collaborer. Entre autres, ce qui en est ressorti, c'est que les deux ne veulent pas fermer le canal de communication. Encore là, j'ai pas l'impression que Carney soit le premier ministre du Canada, a le gros bout du bon ton là-dedans. Mais ils ont parlé d'économie, d'évolution de la situation au Moyen-Orient et des relations commerciales entre les deux pays. C'est pas mal la même chose dont ils discutent depuis maintenant plusieurs mois, non?
Oui, mais c'est le premier appel direct entre les deux depuis le mois d'octobre. Alors, on peut voir ça comme, comment dire, un pas dans la bonne direction. Mais on le sait très bien, avec Trump, ça peut être un pas dans la bonne direction. Puis après ça, 10 pas de reculons dans deux semaines. C'est sûr que c'est un contexte particulier parce que Mark Carney fait partie des premiers leaders à appuyer l'effort américain en Iran. Bon, après ça, disons qu'il a vraiment nuancé ses propos. Peut-être qu'il est allé trop vite là-dedans. Mais c'est peut-être la poignée pour reparler à Donald Trump. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est que les négociations reprennent, que oui, comme tu l'as dit, on veut garder un canal de communication qui est ouvert, mais plus loin que ça, il y a bien sûr toute cette question de ce qui se passe, le danger d'embrasement dans la région au Moyen-Orient, avec ce qui se passe en Iran, avec les frappes dans les pays voisins, avec tous les pays européens qui essaient de se prononcer. Bref, Mark Carney en a profité pour suggérer justement qu'on débatte la question à Ottawa là, ce soir avec les groupes d'opposition. Alors, est-ce que ça fait partie des promesses ou des choses qu'il a dit à Trump, au moins dans discuter pour voir quelle est un peu la position canadienne ou savoir quelle est la suite des choses? Mais ça fait partie quand même de leur discussion. C'est sûr que comme n'importe qui, j'aurais aimé être un petit oiseau hein, pour savoir exactement ce qui s'est dit sur autant les négociations commerciales que la situation est très, très tendue.
Est-ce que au niveau du ton, Donald Trump s'est calmé envers le premier ministre du Canada? Est-ce qu'il est un peu moins bully qu'il l'était? Est-ce qu'il a décidé d'utiliser notre position au niveau du ton?
C'est difficile à dire parce que comme je le disais un peu à la blague, là, ça dépend vraiment des semaines et tout ça, mais on sait que depuis qu'il y a eu Davos, là, depuis le fameux discours de Mark Carney qui avait été applaudi par tout le monde, ben après ça, il y a eu vraiment un moment où Donald Trump semblait être encore plus frustré face à Mark Carney. Au niveau des négociations, on l'appelait gouverneur Carney, ce qu'il avait pas fait auparavant. Alors, dernièrement, je te dirais qu'il y a eu pas un durcissement, mais un ton un peu plus baveux, hein, un peu plus frontal, moins dans, je veux dire, l'amitié, la collaboration, mais c'est des choses qui peuvent changer très, très rapidement. Et là, le fait quand même d'avoir un appel téléphonique comme ça dans les circonstances, quand c'était plutôt avant un mode « je l'ignore » ou « j'ai des commentaires négatifs », bien, il y a quand même ce changement-là qui, pour l'instant, on peut prendre comme quelque chose de positif.
Avant de parler de la conversation que Donald Trump a eue cette fois-ci avec Emmanuel Macron dans les dernières heures, courte conversation, mais quand même, ça met le ton sur comment est-ce qu'il va collaborer avec les pays européens. On a des textos qui entrent au 88-971-1021 et quelqu'un qui dit « Carney était supposé de régler le problème avec Trump. » Là, il l'appuie. Quelqu'un semble un peu confus dans tout ça.
Il l'appuie, la personne veut dire par rapport à
la guerre,
à l'Iran. Oui. Mais c'est sûr que Mark Carney, après ça, a fait certaines nuances, hein, parce que il a vu que les frappes, c'est de donner, comment dire, un appui inconditionnel à Donald Trump sans savoir quelle tournure allait prendre ce conflit-là, parce qu'il y a une différence entre des frappes chirurgicales en quelques heures, comme on avait vu là, avec l'opération là, qui visait les installations nucléaires, on se souvient, en juin dernier, et là, disons, un conflit où on connaît le début, mais on connaît pas encore la fin. On sait pas quand tout ça va arriver. Donc, il y a des gens qui ont dit, ben, c'est un peu imprudent de sa part. Il y en a qui ont dit, bon, au contraire, ça fait partie des négociations. Alors, il veut montrer, pas patte blanche, là, mais qu'il est d'accord avec le président, ne pas être ado. Mais moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une espèce de, comment dire, une opposition dans son discours, le discours de Davos qui rejetait l'hégémonie américaine. Et là, d'un autre côté, bon, on l'appuie inconditionnellement au départ par rapport au conflit. Alors, je comprends le point de peut-être qu'il y a un discours un peu changeant là, par rapport au président Trump et à ses différentes actions. Je voudrais pas être à la place de n'importe quel premier ministre canadien ou d'un autre pays qui négocie avec le président Trump. Je vais être bien, bien honnête avec ça. Là. Disons que tu dois jongler avec ses humeurs et aussi ta propre politique interne au pays.
Une boîte à surprise, André, le clown que tu crains, puis à un moment donné, il sort, mais tu sais pas comment il va sortir de la boîte. C'est un peu ça. Et tu parlais bon, de n'importe quel autre dirigeant dans le monde qui a affaire à Donald Trump. Ça a été le cas d'Emmanuel Macron, président français. Emmanuel Macron, qui est assez vocal depuis le début dans tout ça, oui. Il semble être un porte-étendard, ou du moins de l'Europe en ce moment, du commun que fait certains pays européens face à la guerre avec l'Iran. Il se rend à Chypre dans les prochaines heures, mais il a échangé avec Donald Trump. Il y a des petites choses qui en ressortent. Entre autres, pour lui, priorité aujourd'hui, c'est de travailler sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, qui est un des détroits les plus importants au niveau commercial, au niveau mondial. Il veut le faire de façon sécuritaire. Il a un peu parlé d'armes nucléaires aussi, mais il a surtout pris position pour défendre ses comparses européens.
Mm-hmm. Oui, puis le détroit d'Ormuz, c'est très important d'en parler parce que c'est 20% ou même, j'ai vu des chiffres, entre 20, on va dire, et 30% du pétrole là, qui transige par ce petit détroit là, qui est vraiment collé sur l'Iran. C'est là qu'il y a des frappes, c'est là que c'est très imprudent, disons, de naviguer. Actuellement, là, les compagnies veulent même plus assurer les navires qui veulent y passer. C'est extrêmement dangereux. Alors, un peu comme les États-Unis qui ont proposé d'utiliser des navires de guerre pour escorter les pétroliers, tout ça dans le détroit. C'est ce que j'ai l'impression que Macron veut faire aussi, hein, parce qu'il a dit qu'elle envoyait des navires, lui également, pour pouvoir sécuriser cet endroit-là, mais surtout escorter aussi les navires, parce qu'on le voit, là, je fais une petite parenthèse, le prix là, du baril de pétrole qui a augmenté, là, juste aux États-Unis, on a augmenté de 50 sous à le prix à la pompe, là, le gallon, là, c'est pas le litre, mais quand même, là, on approche pratiquement 4$ le gallon. Quand Donald Trump, il y a à peu près 2 semaines, même pas encore 2 semaines, disait dans son discours sur l'État de l'Union qu'on était sous la barre du 2$ le gallon.
Mais voici.
Alors, aux États-Unis, ça a un effet important, mais en Europe aussi, assurément, là, c'est pas juste là. Ici aussi au Canada, il va y avoir d'autres hausses à prévoir.
Ben, voici. Alors, Valérie, Macron, la semaine passée, à Québec, il y a des stations d'essence qui ont manqué d'essence parce que les gens ont été pris de panique. Ça s'est fait du côté de Beauport. J'en ai fait un dossier parce que je voyais sur les réseaux sociaux les gens commencer à s'affoler puis dire, ben voyons, je suis arrivée à une station d'essence et on sortait me dire, ben vous pouvez pas parce qu'on n'a plus d'essence. Et le prix du pétrole dans le baril a dépassé 115 à 120 $ en fin de semaine. C'est le niveau le plus élevé depuis 2022. Ce que tu dis, c'est important aussi, là.
Oui, exactement. Je pense que là, aujourd'hui, là, je regarde en même temps parce que j'avais ouvert un document là-dessus, mais je pense qu'il y a encore plus augmenté. Là, c'est ça, il 120. Là, il y en a qui disent est-ce qu'il va se rendre jusqu'à un 130, 140, 150. Là, on est vraiment là, dans quelque chose d'assez, comment dire, incertain par rapport à tout ça pour le prix du baril de pétrole. Mais par rapport à Macron, si on revient un petit peu à sa position, c'est sûr que les États-Unis ont attaqué. Pas de la même façon que l'Iran. J'en parle par les mots ici. L'Espagne en disant, bon, on veut utiliser vos bases. Si vous voulez pas collaborer avec nous, on sait déjà que vous payez pas le juste prix pour l'OTAN et tout ça, ben, on va vous imposer de nouveaux tarifs. Alors, on revoit, là, ça revient un peu à notre sujet de Carney tout à l'heure, à quel point on mélange tout, hein. Tout ce qui est militaire, qui est aide, collaboration, tarifs. Il y a Emmanuel Macron qui est venu à la défense, justement, du gouvernement espagnol, de d'autres gouvernements aussi, qui a été quand même loin, hein. Il a quand même risqué, comment dire, d'avoir des réactions de la part de Trump, parce qu'il a dit que là, on était vraiment avec les bombardements, là, qu'on était à l'extérieur de tout ce qui est droit international, hein, qu'on dépassait les règles du droit international, que de la façon que c'était fait, par exemple, les frappes d'Israël et des États-Unis, il ne pouvait pas les approuver comme elles étaient faites. Bien sûr, il y a eu ces frappes qui ont choqué, entre autres, on sait, hein, qui ont visé une école, selon les informations qu'on a, une école de jeunes filles en Iran. Là, il y aurait eu plus de 160 morts. Il y a une enquête qui est en cours. dans beaucoup de, comment dire, de médias américains, on analyse tout ça et on pense que c'était une frappe américaine. Bref, c'est ce qui lui a amené à ce discours-là. Et bien sûr, de s'assurer qu'il n'y a pas une escalade au niveau du nucléaire et une escalade dans la région.
Ça répond partiellement à ma prochaine question que je voulais te poser, Valérie Beaudoin, parce qu'il semble diviser Donald Trump de plus en plus dans cet élan de guerre-là. Il y a une grande différence cette fois-ci entre ce qu'a connu les États-Unis lors de la guerre du Golfe, de l'attaque de l'Irak au niveau coalition, au niveau appui international avec les alliés, versus aujourd'hui avec l'Iran. Qu'est-ce qui explique ça?
Bien, il y a des différences et des similitudes. Dans les différences, c'est certain que pour les deux guerres du Golfe, celle des années 90, celle du début des années 2000, celle de l'Afghanistan aussi, là, qui était post 11 septembre, on est, oui, avec une certaine coalition, surtout pour l'Afghanistan, hein, que je pense qu'il y avait beaucoup plus de pays qui appuyaient que l'invasion en Irak. On se souvient, là, du Canada et qui avait refusé, justement, au départ, la demande de Bush aux États-Unis. Donc, on n'est pas dans le même contexte. C'était une invasion terrestre aussi. Hein? Alors, ce n'était pas des frappes aériennes. La guerre est très différente à ce niveau. Mais au niveau des raisons, hein, du raisonnement, du ton qui est utilisé, il y en a qui font des parallèles entre les fameuses armes de destruction massive, cette menace imminente à l'Amérique, quand finalement, on le sait, des années plus tard, tout ça n'était pas fondé. Et de l'autre côté, utiliser la poignée de dire bien, il y a une menace nucléaire imminente. Hein? Ils sont tout près d'avoir la bombe nucléaire, en parlant de l'Iran aussi. Alors ça, c'est deux choses complètement différentes. Le contexte politique est aussi très différent. Il y a un contexte post 11 septembre, hein, attentat terroriste aux États-Unis, une population qui est traumatisée, qui appuie ce désir d'aller lutter à l'étranger de façon générale. Tandis qu'en ce moment, non seulement les Américains en majorité ou près de la majorité sont contre cette invasion, pas cette invasion, mais cette guerre en Iran, Donald Trump a une plateforme « No more wars », plus de guerre. Là, je sais, on s'en est déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, je suis allée dans des rassemblements de Trump. C'est des discussions qu'on voyait. Il y avait ça sur des posters, il y avait ça un peu partout. On dépensera plus de l'argent. Il n'y aura pas le sang des Américains qui va couler, en parlant bien sûr des militaires. On est vraiment ailleurs avec ce qui se passe. Et il y a un risque, justement, de rester plus longtemps que prévu dans la région. Et on le voit à quel point, là, à chaque jour, là, si vous ouvrez votre télévision, je sais que ça peut être déprimant pour certains, mais on voit qu'il y a des frappes, que ce soit Bahreïn, que ce soit, on a vu en Arabie Saoudite, on en a vu au Qatar, on en a vu un peu partout. Il y a aussi vraiment cet embrasement de la région qui fait peur à énormément de personnes.
Je terminerai avec toi, Valérie, sur un fait cocasse, mais qui est aussi très politique et qui est important, hein, dans la prestance, dans comment on s'habille, dans comment on se tient. Le nom verbal, mais Trump est critiqué pour avoir porté une casquette pendant l'arrivée des dépouilles américaines, donc de soldats décédés au combat et qui se voyaient ramener leur corps pour les familles. Ça fait un tollé aux États-Unis.
Oui, le corps des 6 soldats qui sont décédés. Là, on sait qu'il y en a eu un 7e. On l'a appris malheureusement ce week-end. Il y a un 7e soldat qui est décédé. Lui, c'était des frappes, raison de frappe en Arabie Saoudite. Sa dépouille n'a pas encore été rapatriée, mais pour ça, on le sait, en l'image, là, le drapeau américain sur les comment dire, les cercueils, tout ça, quelque chose de très, très solennel. Et je me souviens, avant de parler de Trump, quand Biden avait été critiqué parce qu'il regardait sa montre, hein, les images, les photos qu'on voyait, c'était ça. Et là, cette fois-ci, on a une situation, je vais dire, un peu similaire, où le président a une casquette blanche, vraiment comme une casquette là, de style baseball, là, pas un truc d'armée ou rien, où il est écrit USA. Il ne la retire pas lorsque, justement, les cercueils arrivent. Là, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est le commandant en chef, et c'est comme si c'était un militaire, il faut qu'il garde, justement, le couvre-chef et tout ça. Ça reste quand même un civil. Hein. J'ai regardé plein d'analyses de militaires américains qui disaient un peu la même chose. Et pourquoi on dit que ça devient un peu un fait cocasse et tout ça? Bon, là, on peut critiquer l'attitude de Trump, mais c'est que Fox News n'a pas présenté les bonnes images. Imagine-toi qu'ils ont présenté dans leur bulletin de nouvelles des images d'un autre, je veux dire, accueil, entre guillemets, ou cérémonie où des soldats américains décédés au combat arrivaient aussi à la base de Dover,
mais voyons donc,
aux États-Unis.
Pour
et
protéger.
Là, c'est pas les bonnes.
Pour protéger Donald Trump de
ce moment-là. Est-ce que c'est pour le protéger ou pas? Parce que là, il n'y avait pas sa casquette. Hein. C'était vraiment plus, je veux dire, solennel, tout ça. Et finalement, ben, il y a un animateur de Fox News qui dit on s'excuse, on est vraiment désolé de cette erreur grossière d'avoir présenté les mauvaises images. Mais pour avoir travaillé dans une salle de nouvelles, et toi aussi, Pascal, il me semble que tu réalises lorsque tu mets quelque chose qui date, je ne sais pas, de 2017 ou de 2016 ou quelque chose de 2020
un choix conscient,
versus quelque chose de 2026. Alors, à part si tu mets image d'archives, il y a quelque chose de très, très particulier. Il y a des gens qui disent qu'est-ce que Fox a voulu vraiment protéger le président américain. Si c'était le cas, je trouve pas ça très, on va dire, subtil de leur part. Je pense que les images ont fait le tour du web déjà.
On peut être d'accord là-dessus, Valérie Beaudoin, analyste politique américaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Boulevard ce matin.
Merci, bonne journée.
Toujours intéressant de parler avec Valérie, hein, qui amène différents points de vue et surtout une analyse complète sur tout ça. Puis oui, le choix d'image est souvent choisi. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Après, je me suis demandé, bon, est-ce qu'ils n'ont pas couvert ces obsèques-là? Puis il n'y avait rien en termes de support d'image à offrir pendant leur reportage. C'est une question qui peut se poser. Si je veux être 100% transparente, franche, honnête et faire mon travail avec vous, je peux poser la question en ondes. Mais encore là, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas couvert la chose la plus importante, je pense, actuellement, le rapatriement de dépouilles de soldats américains en leur territoire? Ça, j'y crois pas beaucoup. Donc, ils doivent en avoir des images. Écoutez, on pourra en parler longuement de Donald Trump dans chaque émission aussi à Boulevard 101 et encore dans chaque journée que constitue cette semaine-là parce qu'il fait la manchette chaque jour, c'est pas compliqué. Peut-être un petit clin d'œil au niveau des armes nucléaires du côté de l'Europe. Dans les dernières heures, on a parlé de la France là-dessus. La France qui avait adopté une position depuis la dernière guerre mondiale de pas arrière. On avait dit non, l'arme nucléaire, c'est agressif, on veut pas être là-dedans, on est dans un programme de désarmement et tout ça. Et finalement, bon, on s'est dit, bon, non, on va encore retravailler sur l'arme nucléaire. Ils sont prêts à produire de nouvelles têtes nucléaires parce qu'ils se disent, ben nos ennemis en ont. On peut pas se positionner comme étant plus faible quand on n'a pas d'armes nucléaires en 2026. C'est un problème. À l'émission Dans le point de Max, en congé de Max, qui est à Montréal, Éric Boulay, directeur de l'Aube-Rivière, s'en vient parce que l'ex-maire de Québec, Régis Labeaume, s'est prononcé sur la crise de l'itinérance. Lui avait calculé que ça allait être assez important dans les prochaines années. Nous sommes dans les prochaines années, quelques années après son dernier mandat. Quel en est le constat? Est-ce qu'il avait raison? Il s'est prononcé dans Le Soleil aujourd'hui et c'est Éric Boulay qui va prendre la parole là-dessus. Dans Le point de Max, restez là. Le point de Max. S'ils vont rester en poste, oui, mais il veut prolonger les mandats d'au moins deux de ses alliés de longue date pour des contrats qui venaient à échéance juste après la prochaine élection. Donc, il veut qu'ils conservent leur place dans la haute fonction publique malgré un éventuel changement de gouvernement. Et ça, ça va se faire et on en discutera. Mark Carney a discuté avec Donald Trump, donc d'économie, d'évolution de la situation au Moyen-Orient et des relations commerciales entre les deux pays. Ils ont convenu de rester en contact étroit. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais ils veulent se jaser. C'est un peu ça. Et c'était la première conversation téléphonique directe entre les deux depuis octobre. Je vous rappelle, on est en mars. Autre nouvelle qui a fracassé peut-être nos cœurs, qui nous a vraiment fait mal en fin de semaine, que vous ayez des enfants ou pas, puis c'est le cas d'une auditrice qui a commenté tout ça pendant la pause, exactement de la même manière que je l'ai vu. C'est tellement triste, la nouvelle de l'accident mortel. L'accident d'autobus en fin de semaine à Sainte-Rose-de-Watford, c'était samedi, faisait beau. On avait un café qu'on apprenait qui avait un accident important. Le constat de tout ça, c'est 4 blessés graves, 10 blessés mineurs et un décès. Celui de Xavier Landry Rousseau, 13 ans, qui a perdu la vie dans cette sortie d'route-là. Il faisait partie d'un groupe de cadets. On était dans l'autobus jaune là, pour aller triper, pour aller dans une compétition de tir à air comprimé. Probablement le samedi que bien des jeunes attendaient quand tu es dans les cadets. Et tout de suite, je me suis dit, bien voyons, c'est des jeunes qui se rendaient où? C'était quoi l'activité qui les faisait triper dans laquelle ils allaient participer un samedi? Puis Marianne nous a écrit, j'en pleure ce matin de cette nouvelle-là, je connais même pas. Quand tu penses que tes enfants sont en sécurité dans l'autobus, aller faire un super beau trip quand tu es jeune, un super beau trip à vivre la fin de semaine, puis finalement, c'est un drame. On pense à la famille, aux proches, aux jeunes dans l'autobus. Ça vient saisir un peu tout le monde. Puis c'est un segment que vous aimez beaucoup à l'émission, c'est celui de l'open mic. On va pas passer à côté. On va aller parler à Paul Lévesque, qui est experte en comportement humain.
À Boulevard, il y a un moment où on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Audrey n'est pas là, Max n'est pas là, vous le savez, mais il n'y a rien qui va nous empêcher de perpétuer la bonne nouvelle et la bonne habitude qu'ils ont, soit d'aller dans un contexte plus humain. À 11h, c'est ça, c'est l'open mic. Et pour ce faire, je viens de vous la présenter, c'est Paul Lévesque. Bonjour, Paul.
Ben bonjour, bon matin, bon lundi. Heureuse d'être avec vous.
Très heureux aussi de t'avoir au bout du fil aujourd'hui. Bon, on a pensé à toi parce qu'on s'est dit... Il y a plein de choses qui se passent dans l'actualité ces temps-ci. Il y a plein de choses qui viennent nous faire mal. Puis, c'est pas toujours possible d'avoir le genre de paravent, de parapluie pour se protéger de ça. En même temps, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. On veut pas être saut puis être inconscient de ce qui nous arrive. Je veux dire, même Téhéran était rendu à nos pompes à essence. Là, à Beauport, la semaine passée, on a manqué d'essence parce que les conflits au Moyen-Orient résonnent ici. Le prix du baril qui est en explosion, il a encore monté aujourd'hui. On est rendu à 120 $ et même plus dans les dernières heures en termes de barils de pétrole, ce qui fait en sorte que ça monte les prix partout. Le détroit d'Hormuz au niveau commercial est fermé. On a des bombardements. Les hôtels sont visés au Liban. Il y a des gens, des Canadiens, des Québécois qui sont pris dans le monde. On a cette nouvelle-là en Beauce. C'est assez fracassant, la nouvelle, comment elle peut venir nous chercher. Paul, si je me concentre sur la tragédie en Beauce pour notre première conversation... Oui. Peux-tu nous dire pourquoi c'est important de débriefer un traumatisme, que ce soit direct, indirect, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, pourquoi c'est important d'en parler?
Parce que mettre des mots, ça nous aide à se libérer. Quand il arrive un événement aussi majeur, c'est un événement qu'on s'approprie. Hein? Quand il arrive quelque chose d'aussi grandiose au niveau du heurt émotif, c'est qu'on se l'approprie. Tout à coup, on se met à penser à nos enfants. Tout à coup, ah, on appelle ça de l'empathie sociale. On se met à penser si ça nous arrivait. Puis, tu sais, comme parents, là, la bête noire des autobus, ça nous habite. On dirait tout le temps que, tu sais, ils sont pas protégés, il n'y a pas de ceinture. Puis, ça frappe encore plus parce que c'est des jeunes. Puis, tu l'as dit, ils s'en allaient dans un contexte de bonheur, etc. Mais ça nous ramène souvent à nous. Hein. Ça nous ramène. Puis, on parle toujours de l'onde de choc. On parle de la loi du 48 heures. Le premier 48 heures, c'est l'onde de choc. On en parle. On se l'approprie. Hein? On pleure, on est en colère, on se demande pourquoi, on veut des détails. C'est pas du voyeurisme, hein? C'est de l'empathie sociale.
Fait que de prendre part à cette tragédie-là, tout le monde ensemble, que ce soit dans notre salon ce matin quand on jase, c'est de l'empathie sociale. Mais ça, ça peut être bon parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé en me disant ben, pourquoi ça vient me chercher autant, puis comment est-ce que je peux faire pour me réconforter là-dedans, ça a été de dire hey, oublie pas de dire aux gens que t'aimes que t'es aimes. Hey, oublie pas de profiter de chaque seconde de ta vie, d'être dans l'espace, dans le moment présent. Puis en même temps, je me dis oh, j'ai bien beau dire ça, puis je vais le dire à la radio. Je me ramène toujours aux parents, puis je me dis s'ils entendent ça, je leur fais-tu plus mal?
Ben, en fait, ce qu'on se dit, c'est moi, je pense que tout ce qui arrive dans la vie, doit nous amener à réfléchir, pas à rester stoïque dans nos pensées et développer de l'anxiété, mais se mettre à réfléchir, et c'est des occasions pour prendre conscience. Prendre conscience que nous, on a peut-être la chance encore d'avoir du monde qu'on aime autour et qui sont précieux, parce qu'on vient ensemble de visualiser qu'une perte peut être rapide. Tu sais, on le sait tous, Pascal, hein, qu'on est à l'aéroport, puis qu'on va tous prendre l'avion un jour pour le grand départ. Mais on y pense pas tous les jours parce qu'on virerait fou. Oui. Mais ces situations-là nous ramènent à l'ordre sur le deuil, sur la perte, sur la fragilité de la vie. Et ça nous ramène, nous, à prendre conscience de « Hey, c'est bien fragile tout ça. » Un samedi matin, tout peut basculer dans la vie de gens qui ne s'y attendaient pas.
Oui, puis je pense que ça, c'est le plus tragique, puis c'est là où que ça vient nous saisir. Des fois, ça peut être difficile d'aller en jaser, de débriefer. Moi, je pense à ceux qui travaillent dans les services d'urgence, hein, qui, bon, de plus en plus, on est un peu ferré pour en jaser. On a décidé d'avoir des travailleurs sociaux qui s'en vont dans les casernes, dans les centres de police et tout ça, suite à des événements difficiles. Mais t'as pas besoin d'un super gros traumatisme non plus, des fois, pour être shaké de quelque chose. Paul, parler, c'est pas facile pour tout le monde.
Non.
As-tu des outils pour ceux qui ont bien de la misère et qui ne réalisent même pas qu'ils auraient dû en parler avant que les dommages collatéraux s'accumulent?
Ben, je te dirais qu'on a parfois une mauvaise idéologie de parler. On pense que, moi je dirais plus communiquer. On va transférer ça parce que tu as raison, parler c'est être capable d'avoir une volatilité au niveau verbal. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais moi, j'accentuerais ça d'abord sur communiquer. Communiquer l'émotion qui t'habite. Puis peut-être que ce qui t'habite, c'est peu importe, là, on parle de cette nouvelle-là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Si t'es, t'as de la peine, peut-être que communiquer ta peine, c'est prendre quelqu'un dans tes bras. T'es en train de communiquer quelque chose.
T'es pas toujours obligé d'être en mots.
Pas obligé. Il y a des gens qui vont utiliser l'écriture, qui sont des mots plus, mais pas au niveau de la communication verbale. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter pour apaiser. Tu sais, des fois, là, il y a des gens qui me disent pas qu'ils ne veulent pas parler. Ben oui, mais c'est pas de la torture faire parler l'autre. On n'est pas obligé de prendre un tapis de fakir. Mais ce que ça veut dire, c'est être près de quelqu'un, près de soi-même. Ça veut dire de quoi j'ai besoin. Peut-être que pour communiquer ma détresse, j'ai juste besoin que quelqu'un me prenne la main et me dise qu'il me comprend. C'est communiquer veut dire s'ouvrir à soi et s'ouvrir à l'autre. Et ce n'est pas nécessairement par des mots fluides ou des mots qui marquent les émotions. C'est sûr que c'est l'idéal, mais des fois, communiquer, c'est juste, ça vous est peut-être, toi, arrivé, Pascal, puis arrivé aux éditeurs, de ne pas avoir de mots. Les mots restent pris dans la gorge. On voudrait donc. Ben, la première étape, c'est peut-être d'admettre qu'ils sont pris dans la gorge. Communiquer, ça peut peut-être vouloir dire, je voudrais parler, puis je suis pas capable. Déjà, tu es en train d'exprimer quelque chose.
Déjà, tu avances là-dedans. Paul? Déjà,
oui.
Quelqu'un nous écrit, puis je trouve ça vraiment intéressant comme vision, mais dans n'importe quelle tragédie ou dans... Des fois, il y a des erreurs humaines qui sont commises et ça amène à quelque chose qui va changer le cours de notre vie au niveau négatif, qui va nous brasser à l'intérieur. Tu sais, le fait de ressentir une émotion négative, par exemple, quelqu'un qui cause un accident pour cellulaire au volant, qui fait une mauvaise manœuvre, qui peut-être n'a pas réfléchi avant un comportement. Ou, tu sais, des fois, on en veut à cette personne-là, puis c'est une réaction humaine du début. Est-ce qu'on est haineux pour autant? Est-ce qu'on doit se taper sa tête parce qu'on vit cette colère-là, mais on ne doit sûrement pas devoir rester dedans non plus?
Moi, je pense que réprimer, c'est la pire affaire à faire, là. Parce que tu t'empoisonnes, d'accepter qu'elle est là. Moi, je pense que la première chose, c'est de dire, elle est là. Je l'ai-tu voulu? Non. Ça se peut que ça soit de la colère, ça se peut que ça soit de l'agressivité, ça se peut que ça soit le désir de vengeance. La première chose, c'est de le reconnaître. Dès que tu le reconnais, tu dégonfles le cœur. Tu sais, je suis en colère, j'ai envie de me venger, etc. Bon, maintenant, je fais quoi avec ça? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est pas de la refouler, c'est de la mettre en lumière. Elle est là. Bon. C'est pas ce que je veux, mais elle est là. Maintenant, j'en fais quoi? Comment je fais pour que ça soit constructif? Et tu sais, les gens, ils parlent beaucoup de pardon, hein. Mais tu sais, pardon, c'est pas judéo-chrétien, là. Pardon, c'est d'abord se pardonner à soi-même de ressentir ce que je ressens. C'est d'accueillir ce que je ressens. C'est là, là. Maintenant, c'est de se poser la question, comment je l'utilise pour que ça soit pas contre moi, et pas contre les autres. Tu sais, la vengeance, c'est du poison que tu prends toi-même en pensant que l'autre va t'empoisonner. Fait que c'est légitime de ressentir ce qu'on ressent. Mais c'est surtout se demander ce que je vais en faire pour pas continuer à perpétuer la destruction.
OK. Donc, l'identifier puis être capable de voir ça sera quoi ma prochaine action, pas dans la violence, bien sûr, pas dans la haine et tout ça. Comment est-ce que
je vais... L'accepter. Oui. Accepter que ça se peut que je sois en colère puis que j'aille pas du tout. Tu sais, moi, dans ma pratique, là, j'en rencontre des gens qui ont vécu du traumatisme majeur puis qui ont perdu un enfant par négligence de quelqu'un en boisson ou des choses comme ça, là, tu sais.
Mais c'est à ça que je pensais aussi, tu sais. Il y a l'émission Shrinking en ce moment qui est disponible. C'est une série vraiment intéressante, mais c'est un psychologue pour... Sa femme est décédée sous le volant de quelqu'un qui était en état d'ivresse, là. Puis, à un moment donné, ils deviennent amis. Ils sont capables de jaser, puis ils cuvent cette peine-là, parce que la personne qui a commis l'erreur s'en veut, puis il pense à chaque jour, puis la personne qui a perdu sa femme en veut à cet homme-là, puis il pense à chaque jour, puis il trouve le point commun dans le fait que les deux essaient de surmonter cette peine-là, tu sais.
C'est-tu bon? Non, mais je l'écoute, moi aussi, là, c'est incroyable la grande leçon de vie. C'est pour ça que je te dis, la première chose, c'est de se pardonner à soi-même. Parce que souvent, on n'accepte pas ce qu'on ressent, donc j'accepte ce que je ressens, puis je me pardonne de ressentir ça, puis ça va m'aider à aller plus loin. Puis je pense que la colère, c'est sain. Par contre, le ressentiment qui s'installe dans le moyen et long terme ne fait que détruire. Fait que, tu sais, mais on passe vite à une autre vitesse. Je trouve qu'on vit dans une société aussi où on se donne pas le temps. Puis ça, c'est le deuxième secret. Ça a l'air cucu de dire donne-toi le temps, mais c'est parce que l'estomac apprend un certain temps à digérer. Ben, dans la vie, c'est ça aussi. Des fois, la digestion est lente, puis des fois, elle est rapide. Mais juste, des fois, les gens me consultent pour un deuil, puis ils me disent pas, c'est normal, je pleure encore ces trois mois. Je dis, hey, why not, coconut? On peut-tu, s'il te plaît, laisser le temps aux émotions de vivre puis d'évoluer? Parce que tout doit être fait pour hier. Hein?
Ouais.
Puis c'est ça le danger avec l'accident qui est arrivé aussi, tu sais. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant 48 heures, puis là, on pense à nos vies, puis on se remet en question. Puis, pouf! Après ça, la vie reprend son cours, puis on n'a pas tenu nos leçons. On a tiré des leçons qu'on n'a pas conservées, parce que la vie reprend son cours. Donc, on vit dans une société d'amour jetable, on vit dans une société où on est toujours en train d'avoir un sentiment d'urgence qui nous empêche de laisser les émotions se vivre, s'accepter, puis prendre le bord d'un autre chemin.
C'est intéressant ça. On pourrait en faire un sujet complet même. Mais ironiquement, et très c'est très intéressant ça pour l'évêque. Tu es experte en comportement humain, puis tu nous proposais aussi de se poser la question, est-ce que l'actualité nous mine de façon consciente ou inconsciente? Est-ce qu'elle vient, puis tu sais, aujourd'hui, il fait gris, on revient de la relâche, on recommence à travailler pour certains. C'est une journée pédagogique. Il a fallu trouver quelqu'un à s'occuper des enfants une journée de plus. T'sais, des fois, c'est un casse-tête. Puis là, on entend ces nouvelles-là, puis on voit le prix de l'essence qui monte dans une période inflationniste difficile. Puis là, j'en ajoute, gang, là, on lâche pas, là. Conflit au Moyen-Orient, il y a des gens qui sont pariés à l'extérieur. Tu peux encore voyager, où est-ce que le monde s'en va? Puis, tu nous proposes, ironiquement, d'aussi faire de l'acouphène émotive. Ça veut dire quoi, ça?
Bien, tu sais, c'est un terme qui représente bien le mal physique. Hein? L'acouphène, c'est le petit maudit son de marde dans l'oreille qui lâche pas et qui te rend fou. Là. L'acouphène du cœur, c'est cette espèce de son omniprésent qui est lancé dans nos vies par la société, par toutes sortes d'affaires, où on a toujours comme l'arrière-plan que ça va mal. Il y a toujours quelque chose qui va mal. C'est sûr que on est très exposé parce qu'on est informé beaucoup. Hein. En étant exposé, c'est comme si chaque jour on se levait le matin avec l'impression c'est la fin du monde, la fin d'un monde, la fin de quelque chose. Qu'on est toujours comme en danger de quelque chose. Et ça, ça crée de l'anxiété. Et l'acouphène du cœur pourrait ressembler à de l'anxiété, la peur, la pression, l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que de toute façon, c'est fini. Tu sais, quand j'entends que les jeunes, parce que les jeunes qui font des enfants, les vieux ne sont pas capables, mais quand les jeunes disent « je ne ferai plus d'enfants parce que c'est un monde pourri », ben on parle de désespoir. Et le désespoir, c'est cette espèce d'acouphène émotive qui sonne tout le temps comme un son qui fait du mal, qui nous dérange, qui nous empêche d'être dans le bien-être, dans l'espoir. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que ça sera demain, je ne sais pas, mais une chose que je suis sûre, c'est que la vie, 10% de ce qui arrive et 90% de ce que j'en fais. Et pour être capable d'en faire quelque chose de constructif, il faut avoir de l'espoir. Pas être fleur bleue. L'espoir, c'est de dire, on monte la première marche, je vois pas le reste de l'escalier, mais la prochaine marche va m'aider à voir la numéro 2, la 2, la 3. Fait que soyons pas dans le fatalisme, soyons dans le réalisme, mais avec l'espoir. Et je crois que c'est ça qui va venir nous aider à conduire à clutch. Le bon point précis en étant dans le réalisme, mais en étant dans la capacité de dire, moi, une journée à la fois, je peux changer des choses en même.
Mais ça, Paul, c'est intéressant. Puis des fois, c'est pas toujours facile à faire parce que, je te donne l'exemple de notre métier, nous, commentateurs de l'actualité, on dirait qu'on on a eu l'obligation dans notre vie, comme plein de gens qui travaillent peut-être au sein de la DPJ, qui travaillent auprès des enfants, qui vivent des choses pas faciles, les policiers. Les... Puis là, nommez-la, votre carrière qui vous prend beaucoup mentalement au 88-971-101 et vous avez dû faire un genre de barrage ou barrière émotionnelle parce que ce serait trop difficile au quotidien. Tu sais, on a eu cet exercice-là à faire, nous, en tant que commentateurs de l'actualité, pour pouvoir la suivre, la nouvelle, sans être KO à chaque jour. Puis, dernièrement, je jasais avec un proche, puis je disais, « Hey, est arrivé telle affaire. » Ça a été lors du premier week-end de bombardement avec l'Iran, ou l'ouverture un peu du conflit actuel. Puis j'ai dit, « As-tu vu ce qui s'est passé, tout ça? » Et la première réaction de cette personne-là, ça a été, « Oui, mais faut pas s'en faire, faut pas commencer à paniquer ou à stresser de ça. » Puis là, je me dis, « Oh, est-ce que cette personne me transpose sa peur? » Parce que clairement, moi, c'est un intérêt de voir ce qui se passe, puis de m'informer, puis de jaser avec cette personne-là. Mais automatiquement, la réponse a été, « Faut pas s'en faire, faut pas stresser. » Puis je me dis, elle est où la limite entre être dans le déni de ce qui se passe pour se protéger, mais aussi prendre compte de ce qui se passe pour être au courant?
Bien, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis effectivement, si c'était facile, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a des pensées refuge, des pensées apaisantes et rassurantes, et il y a des pensées catastrophes. Puis il y a quelque chose entre les deux. Quand une personne te dit « c'est loin de nous », par exemple, « ça ne nous touche pas », etc., je crois que c'est une personne qui va choisir une pensée rassurante, une pensée apaisante, une pensée qui l'aide à ne pas être dans un scénario catastrophe. Et c'est là qu'il faut aller. Donc, on peut prendre conscience que la guerre existe, que c'est horrible, mais se ramener à notre pouvoir personnel. Qu'est-ce que moi, je peux ici et maintenant faire pour être capable d'avoir une qualité de vie qui me permet de ne pas être continuellement dans des scénarios catastrophes? Si je te rejoins, il y a des métiers qui sont à haut risque, là, plus que d'autres. Il y a des personnes qui sont plus à haut risque à cause de leur anxiété, de leur personnalité. Et moi, je me prends comme exemple. Là, je veux dire, je suis souvent dans des scénarios plus catastrophes parce que les gens me consultent parce que leur vie peut être difficile.
Oui.
Je fais des packs de non-suicide. J'accueille des gens qui ont vécu des choses très difficiles, etc. Puis, je le pratique. Parce que des fois, les gens me disent pas comment tu fais pour mettre ton bouton à off. Je le mets pas. Mais être honnête, là, je le mets pas. Pas capable de le mettre, pas capable d'éplucher une patate en ayant fait un pack de non-suicide et en me disant « Oh, la vie est belle! » Mais ce que je me dis, j'essaie d'aller dans une pensée rassurante en me disant « J'ai posé un geste qui fait la différence. Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais dans cette situation-là? » Donc, une pensée réconfortante. Puis, il y a l'exposition aussi, Pascal. Hein? Si tu es exposé quotidiennement, je prends un ambulancier, je prends toi qui es exposé quotidiennement à l'actualité puis qui s'en nourrit. Comment on fait pour ne pas s'y perdre? Comment on fait pour ne pas s'exposer dans un environnement qui va nous happer? Donc, il faut s'exposer dans l'équilibre. Si je m'expose devant l'horreur, je dois m'exposer devant ce qui m'apaise et me donne de l'énergie positive.
Aller chercher l'équilibre. C'est vrai qu'on oublie ça des fois.
Oui.
Fait que ça permet peut-être de ne pas être dans le déni, d'être au courant, mais de aussi s'apaiser.
Oui, c'est des vases communicants. Donc, tu sais, moi, je suis une musicienne, par exemple. La musique vient me donner ce vase communicant-là. T'sais. Puis, être capable de ne pas être exposé qu'au négatif. Puis, tu sais, rappelle-toi, durant la pandémie, les gens qui ont basculé beaucoup émotivement, c'est des gens qui sont exposés beaucoup à l'horreur. Ça ne veut pas dire qu'il fallait fermer tout, parce qu'on veut être informé. Ce que ça veut dire, c'est que si tu t'exposes 24 heures sur 24, tu vas assurément générer de l'anxiété, c'est sûr, parce que ton cerveau est nourri que de junk food. C'est tu te nourris juste. C'est le fun de manger du McDo. Si tu en manges tous les jours, tu vas te rendre malade.
Mm-hmm. Oui, tu as raison. Ça, c'est sûr que c'est une évidence, là.
Mais... c'est un peu ça.
Oui. Mais on retient l'équilibre, c'est pas toujours facile. Fait qu'en l'ayant en tête encore une fois aujourd'hui, ça va peut-être pouvoir aider avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis il y a beaucoup de commentaires. Tu sais, quelqu'un qui dit je pourrais être presque d'accord avec Paul, je suis à ça de l'être si jamais le système viendrait pas aussi prendre 80 % de mon temps, mon argent. Tu sais, c'est une critique politique à ce niveau-là. Quelqu'un d'autre qui dit la colère, c'est un ressentiment qui détruit souvent, plus souvent que l'événement même qui nous tracasse. Je trouve ça intéressant. Quelqu'un d'autre qui dit par rapport à l'incident d'autobus du côté de la Beauce, moi, j'essaie d'aller chercher l'équilibre aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu plus difficile parce que c'est tellement près de nous qu'il va falloir que je travaille encore plus pour essayer de m'en éloigner en étant au courant, bien sûr. Puis la personne, elle a une belle pensée pour les parents qui seront beaucoup, beaucoup aidés, beaucoup chapeautés, beaucoup aimés dans les prochains jours, mais qu'on risque aussi, pas d'oublier, mais vu que la routine va recommencer, peut-être moins mettre d'attention là-dedans et qu'eux devront vivre le deuil un peu plus seul par la suite, là.
Oui, il y a beaucoup de choses. La première chose que je veux dire, moi, je mettrais, c'est que la colère, c'est sain, l'agressivité ne l'est pas.
Bonne différence.
La colère, c'est de la drive. Tu comprends? Il y a une différence. Être en colère, ça nous donne de la drive. Si ça se transforme en agressivité, c'est là que c'est négatif.
Très intéressant.
C'est juste comme commentaire.
Oui.
Puis, juste dire que, puis je reviens avec ce que j'ai dit tantôt, le temps peut jouer pour ou contre nous. Ce que ça veut dire, c'est le temps nous permet de s'apaiser. Donnons-nous le temps d'accueillir ce qui se passe autour de nous, puis de le digérer. Mais, le temps peut aussi jouer contre nous, c'est-à-dire que si j'oublie trop vite, les leçons que j'aurais apprises ne restent pas. Puis tu sais, d'être conscient que, tu sais, c'est ma job, là. On peut pas me vendre l'idée que ça va bien, là. C'est-à-dire, les gens ont de la difficulté à faire leur épicerie pour beaucoup, sont beaucoup dans la restriction, donc beaucoup plus de difficultés à être dans on se paye la traite, tu comprends? Je sais, je suis là-dedans, tu comprends? Je travaille avec les jeunes d'avis, je travaille avec la prévention du suicide. Mais ce que je veux dire, c'est la seule façon de ne pas se laisser happer par ce qui arrive, c'est la créativité. À toutes les fois où je suis dans la marde jusqu'au cou, entre guillemets, j'ai remarqué que les humains, après avoir passé cette phase de tout m'arrive, puis ça n'a pas de bon sens, deviennent soit anxieux ou soit créatifs. Et créatif veut dire la recherche de solutions, et tu remarqueras que quand on vit des situations difficiles, on crée des éléments qu'on n'aurait pas créés autrement. On découvre des forces qu'on ne se connaissait pas. On découvre des éléments de solutions qu'on n'aurait jamais utilisés autrement. On se donne parfois des permissions qu'on ne se serait pas données. Mais au départ, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? On peut rester longtemps dans le fatalisme, dire c'est comme ça, mon grand-père t'a de même, mon pote t'a de même.
Ça va être de même.
Tu comprends? Mais on peut aussi se dire, une fois qu'on a reconnu que ça, c'était extrêmement difficile, comment je fais? Puis, sais-tu à quoi je pense dans ce temps-là? Puis, tu sais, je suis loin d'être fleur bleue, mais le film La vie est belle.
Oui. La façon dont le père tourne ça au jeu. Le fait d'être pris dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un des meilleurs films qui a été fait, là.
Oui. Puis, tu sais, c'est encore un camp de concentration, mais ils utilisent les événements pour leur donner, au fond, c'est de la créativité.
Oui.
On crée un autre système.
Mais c'est un fort exemple, hein, parce que le jeune s'en sort beaucoup mieux mentalement puis est capable de passer à travers. C'est vraiment intéressant les conseils que tu nous donnes ce matin, Paul Lévesque. On doit te laisser. Paul Lévesque, expert du comportement humain, on retient qu'avec tout ce qui se passe, c'est important de débriefer un traumatisme, mais c'est pas toujours par les mots. Si vous avez manqué le début de la chronique, vous allez pouvoir le reprendre sur le site de BLVD tantôt, blvd.fm, dans la section Open Mic. Mais l'actualité aussi, si elle vous mine de façon inconsciente ou consciente, et l'acouphène émotive, tu sais, le genre de cri que vous entendez tout le temps dans votre cœur parce que vous êtes pas bien, vous demandez ce qui se passe, l'important, c'est de pas figer, c'est d'être créatif. Et surtout d'aller chercher un équilibre. Ça, c'est grossier comme vulgarisation de ce dont on vient parler, mais on peut reprendre la conversation un peu plus tard. Merci, Paul Lévesque.
Oui, en dernier, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. De l'aide, pas nécessairement d'un professionnel. Ça peut être ta voisine, ta mère, n'importe qui. Tu sais, se déposer auprès de quelqu'un, c'est peut-être là le secret aussi.
Ça fait du bien. Merci, Paul.
Au plaisir, portez-vous bien.
À la prochaine. Pendant cette conversation-là, qui était très humaine avec la spécialiste en comportement humain, ben la bonne nouvelle, c'est qu'on a grimpé dans les degrés à Québec. On a atteint un petit 4 degrés. Il n'y aura pas bien de soleil. Peut-être alternance soleil-nuage cet après-midi. Mais pour cette semaine, c'est un peu un scénario qui est gris. Alors, on va aller trouver notre bonheur dans les petites choses. Et c'est un peu la thématique hein, de la chronique avec Paul Lévesque. Essayez aujourd'hui d'avoir comme mission de peut-être mettre un peu de créativité dans votre quotidien. Aller chercher quelque chose de différent à ajouter à votre journée, dans votre routine, puis certainement dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Cette tragédie-là en boss nous ramène veut pas à l'essentiel. On n'a pas le choix d'essayer de réconforter de cette manière-là. Quand on voit les drames que d'autres vivent et qu'on pourrait vivre aussi dans notre vie, c'est absolument difficile à lire encore une fois ce matin. On est de tout cœur avec ceux qui sont éplorés par le dossier. De l'autre côté de la pause, dans le point de Max, c'est avec Victor Henriquez qu'on s'entretient. Un analyste politique, entre autres, les nouvelles règles en immigration. Bien, Ottawa a serré la vis à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile. On va aller parler des nominations partisanes de François Legault. Un sujet dont on a peu parlé aujourd'hui, qui m'intéresse beaucoup parce que le maire Vaillancourt hein, va recevoir un chèque de Laval pour payer ses impôts dus sur de l'argent volé. Ouais. On va en jaser avec Victor Henriquez. Restez là dans le Point de Max.
Le Point de Max. Le Point de Max, l'actu du jour avec une touche de Larouche.
Il y a une touche de CV aujourd'hui parce que Larouche m'a cédé son micro du Point de Max pour la journée. Il va revenir demain. En forme, je vous le garantis, il n'était pas à l'hôpital aujourd'hui. Pour ceux qui suivent Boulevard 102.1, rien à s'inquiéter. Il est en forme, il est allé profiter de sa vie. Et de la vie en général du côté de Montréal en fin de semaine. Donc, dès demain, vous allez revoir Maxime Larouche à l'antenne du Point de Max. Chose première, chose due, on va aller jaser de certaines nouvelles en termes de politique directement avec notre analyste politique, Victor Henriquez, qui est au bout du Zoom. Bon matin, bon lundi, Victor.
Salut Pascal, bon début de semaine à tout le monde.
Oui, bon début de semaine, c'est le cas de le dire. Pour certains parents, c'est le retour au travail après la relâche et une journée pédago, trouver de l'aide supplémentaire pour ce 24 heures-là. Avec les enfants, je ne sais pas si du côté de Montréal, c'est la même chose pour toi, mais les enfants sont en congé, nous ici à Québec, une journée de plus.
Ils reviennent en pédago, moi aussi, mais j'étais tellement heureux ce matin de les voir partir. La relâche a un mauvais nom. Dans le fond, ça devrait être une semaine... C'est une semaine qui n'est aucunement une vacance pour les parents. Belle vacances pour les enfants. On devrait avoir une relâche professionnelle la semaine suivante, juste pour se remettre de nos émotions d'avoir été à temps plein avec nos enfants pendant une semaine. Là, ceux qui nous écoutent doivent penser que je suis un père indigne, mais vous comprendrez l'humour derrière ça.
Oui, puis beaucoup doivent comprendre aussi. C'est tellement trippant d'avoir ce temps-là avec les enfants. Puis en même temps, ben, le travail, ça roule, ça s'accumule. Puis c'est ton cas parce que tu es analyste politique. Puis l'actualité depuis... Au moins un an, puis je veux dire deux, là, pour... j'ai jamais vu ça, moi, en 13 ans à la radio, qu'il y ait autant de choses au provincial, au fédéral, au municipal, à l'international, qui grondent et qui font en sorte de donner le pouls à nos journées. La semaine passée, on finissait sur la Cour suprême qui dit « Non, non, les demandeurs d'asile vont avoir le droit à utiliser nos filets sociaux, soit d'envoyer leurs enfants dans des garderies subventionnées. » On recommence la semaine encore en immigration. Cette fois-ci, Ottawa serre la vis à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile. On a des nouvelles règles. C'est dans le projet de loi Omnibus C12. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on a fermé comme dossier la semaine passée en ouvrant aujourd'hui ce pan-là, toujours sur les demandeurs d'asile. On dirait qu'on a vraiment pris une strate de la population, du moins de l'immigration, en main, Victor. Puis sur des choses, on leur empêche, sur d'autres, on ouvre les valves. Comment on se démêle là-dedans?
C'est drôle parce que j'ai passé la fin de semaine à José avec Dumont, justement, qui me posait exactement cette question-là. Comment on se démêle dans tout ça? Je pense qu'il y a deux choses qui sont super importantes. La première, c'est qu'il faut quand même observer qu'au niveau du gouvernement fédéral, il y a un changement majeur qui s'est orchestré depuis l'arrivée de Mark Carney au pouvoir. Rappelez-vous de Justin Trudeau qui avait, en 2019, dit « Venez chez nous, les portes sont ouvertes ». C'était cette invitation un peu ridicule, honnêtement, à la planète au complet à venir ici. En 2023, on avait 177 000 demandes d'asile à l'époque. Imaginez, 177 000.
Suite à cette annonce-là.
Suite à cette annonce-là. En 2025, il en restait 32 000. On parle d'une baisse qui est quand même assez drastique. Et là, avec les nouvelles règles, on s'attend à ce que ça continue à baisser. Je vous donne le chiffre global. Partout sur la planète, il y a environ 8,2 millions de demandeurs d'asile. Pourquoi c'est important d'avoir ces chiffres-là? C'est qu'il faut ramener un peu de relativité dans tout ça. Parce que lorsque la Cour suprême est sortie vendredi, vous avez vu tous les partis politiques déchirer leur chemise en disant « Mon Dieu, la Cour suprême nous oblige à donner des places en CPE. Entre vous et moi, des places en CPE, il en manque environ 34 000. Et le nombre exact de demandeurs d'asile en CPE, on ne l'a jamais vraiment su. On nous donne une évaluation de 6 000. On ne réglera pas le problème, même si on enlève tous les demandeurs d'asile des CPE. » Là, ce que Mark Carney fait, c'est que dans le projet de loi, on vient raffermir les règles pour éviter des explosions du nombre de demandeurs d'asile. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que c'est pas qu'au Canada, on est contre l'immigration. Je pense qu'au Canada, ce qu'on veut, c'est de la prévisibilité. C'est la même chose au Québec. On veut de la prévisibilité, on veut des gens qui contribuent, on veut des gens qui parlent français. Grosso modo, j'ai toujours dit, si au Québec, tu parles français et que tu travailles, les gens, ils sont très heureux de t'avoir ici. C'est un peu ça aussi que le vendredi nous a amené, c'est que si on veut que les gens travaillent puis qu'ils contribuent, il faut qu'ils aient accès aux services publics. Parce qu'ultimement, et c'est ça que la Cour suprême dit, si une femme est obligée de rester à la maison, parce qu'on le sait, dans les familles immigrantes particulièrement, mais dans toutes les familles, hein, ce sont beaucoup les femmes qui portent la famille, qui portent le fait de rester à la maison avec leurs enfants, parce que c'est discriminatoire envers les femmes. Mm-hmm. Et là, ce qu'on fait en diminuant la pression sur le demandeur d'asile, c'est qu'on rend cette décision-là réaliste, selon moi. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que moins on a de demandeurs d'asile, moins la portée de cette décision de vendredi va être grande, et plus on va s'assurer d'arrêter d'avoir cette espèce de phobie que les demandeurs d'asile vont scraper nos systèmes publics. Quand, entre vous et moi, ceux qui scrapent les systèmes publics, c'est les politiciens quand ils prennent des décisions à court terme.
Tu vois, là, tu commences cette nouvelle de la semaine passée sur laquelle on a fini la semaine puis qu'on n'a même pas le temps de digérer parce qu'on en passe à une autre aujourd'hui au niveau un peu du fédéral. Mais elle a fait beaucoup jaser puis les juristes allaient de soi avec ta position du genre, ben là, on est en train d'empêcher finalement ces gens-là d'aller sur le marché du travail et de s'intégrer. On se connaît, on est assez amis dans la vie, on aime ça jaser de politique et tu connais mon style. J'ai envie de te demander, mais toi, t'es-tu biaisé là-dedans parce que t'es issu de l'immigration? Est-ce que ta vision est celle-ci? Parce qu'en fin de semaine, moi, j'avais les deux, là. J'avais des gens qui allaient de votre position et d'autres qui disaient, ben là, moi, je paye assez cher, j'ai de la misère à avoir des services. J'aimerais ça que ce soit ceux qui sont réellement québécois, là, qui sont... ici au Québec, qui a accès à ces services-là en premier. J'avais les deux discussions et des gens qui étaient vraiment sur leur position.
Mais ça, c'est une construction qui est très récente d'ailleurs. Hein. Moi, je vais te le dire, je suis rentré ici comme demandeur d'asile. Okay? C'est comme ça, on est rentré, on est arrivé à la frontière, on a dit, moi, je demande l'asile au Canada. D'ailleurs, on a été refusé 2 ans après, on est parti au Mexique refaire nos papiers. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est important. Peut-être que j'ai un conflit d'intérêts personnels, mais moi, je te dirais que c'est surtout que, connaissant le parcours de l'immigrant, je sais la valeur aussi que ça a dans l'accélération de l'intégration, d'avoir accès à ces services publics-là. Il faut faire attention à une chose, hein, parce que j'avais le même discours de quelqu'un qui me disait « Ah, tu sais, mais moi, j'ai payé toute ma vie. Je comprends, mais c'est un peu comme le système de santé et tous nos systèmes publics. Les services publics, là, c'est une grosse mutuelle. C'est un gros pot dans lequel on met tous de l'argent. Et on commence tous à mettre de l'argent à partir du moment où on travaille. Parce que quand on travaille, on paye des impôts, on paye des taxes. Alors que tu sois un Québécois de souche depuis longtemps, que tu sois arrivé ici à 2 ans, que tu sois demandeur d'asile, dès que tu travailles puis que tu paies des impôts, tu mets de l'argent dans le pot. L'idée, c'est que le plus de gens possible viennent mettre d'argent dans le pot quand ils sont ici. Moi, je ne dis pas que ça en prend plus. D'ailleurs, aujourd'hui, la décision de Mark Carney de raffermir en immigration, c'est une excellente nouvelle. Notamment, ce qu'il vient faire, c'est que les gens vont avoir 1 an seulement quand ils arrivent dans d'autres statuts pour demander l'asile. Bravo! Quand tu sais que tu es en danger, tu n'as pas besoin de 2 ans pour réfléchir. Tu sais que tu es en danger. Okay? Ouais. Donc ça, on applaudit. Mais une fois que les gens sont ici, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent quoi? Ce qu'on veut, c'est qu'ils mettent le plus d'argent dans le pot possible. Et pour que les gens mettent de l'argent dans le pot, ça prend des services publics. De plein de genres de services publics. Ça prend du logement, ça prend des CPE. Maintenant, il y a une chose. Dans les garderies, il manque 34 000 places. Pas 34 000 places à cause des demandeurs d'asile, il manque 34 000 places à cause des gouvernements qui ont peu investi là-dessus, à cause du fait qu'on n'a jamais indexé le coût des CPE, à cause du fait qu'on a créé un système et que quand le gouvernement Couillard avait monté le prix, tous les partis étaient sortis en disant « non, il faut que ça coûte 8 $ ». Mais la réalité, c'est que la vie coûte plus cher et que les salaires sont plus élevés aussi et que faire des places en CPE, c'est plus cher que jamais. Alors, mettons nos énergies aux bonnes places. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est des gens qui mettent de l'argent dans le pot pour qu'il y ait le plus de services possibles. Il faut se rappeler une chose. Cette année, pour la première fois au Québec, il y a plus de morts que de gens qui naissent et de gens qui arrivent. Ce qui veut dire qu'il y a plus de gens qui utilisent beaucoup de services parce que plus on est âgé, plus on utilise des services. Plus on est vulnérable, plus on utilise des services que de gens qui mettent de l'argent dans le pot. Alors, si je l'explique de cette façon-là, ça a l'air un peu simpliste, mais c'est qu'à un moment donné, Quand on entend les gouvernements récemment, on entend Bernard Dreyfus, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon dire oui, mais là, si vous savez, cette espèce de nous contre eux, il ne prend pas en considération une chose. C'est que les gens, quand ils sont ici, on veut qu'ils contribuent. Parce que s'ils n'en contribuent pas, ils coûtent pas mal plus cher qu'une place en CPE, je dois te dire.
C'est vraiment intéressant, Victor, ta position dans tout ça. Puis on va pouvoir en reparler. Puis je trouve ça intéressant aussi, toutes les nuances qu'il faut appliquer dans le dossier. Puis je pense que c'est dans ces enjeux-là où il ne faut pas se positionner fermement, mais être très ouvert au discours autour, au vécu autour, aux petits détails qu'on n'a pas vu venir, parce que je le comprends en tant que contribuable, de se dire, ben moi, j'ai de moins en moins de ressources, de moins en moins de filets sociaux, de moins en moins de services, mais je paie. Puis si on est juste dans cette bulle-là, puis on attribue ça à ceux qui arrivent, on se leurre. On oublie tellement de choses, puis certainement, ça nuit à notre vote. On en reparlera, Victor Henriquez. Je trouve ça fort intéressant, puis c'est loin d'être terminé comme discussion. Petit, avant de passer au maire Vaillancourt qui va recevoir un chèque de Laval pour payer des impôts d'argent volé, moi, ça me fascine. Je comprends que c'est pas à Québec, mais ça va jouer dans notre imaginaire. Je veux quand même faire quelques minutes sur les nominations partisanes de François Legault. Ouais. Il place ses pions. Il veut remercier ceux qui ont été, qui ont travaillé corps et âme à ses côtés avant qu'il quitte le 12 avril prochain. Ça veut dire quoi? On s'assure de quoi dans ces nominations partisanes de Legault?
On s'assure de maintenir d'abord de la continuité dans ce qu'on a voulu implanter comme gouvernement. Parce qu'il faut, on pense aux gens, par exemple, dont le nom est sorti dans l'article, et puis je fais un total disclosure, comme disent les Anglais, notamment Michel Léveillé, je le connais très bien depuis plusieurs années, c'est un professionnel extraordinaire, celui qui actuellement est secrétaire général aux communications gouvernementales, qui voit son mandat renouvelé pour 5 ans. Michel Léveillé, notamment, est arrivé avec le gouvernement caquiste, a été le premier secrétaire général aux communications. C'est un poste extrêmement important parce que le secrétaire général vient un peu s'assurer que les communications du gouvernement soient arrimées, donc que le politique et la machine soient arrimées avec le même genre de communication. Là, on renouvelle son mandat pour 5 ans, donc on va un peu faire porter le mandat au prochain gouvernement. On assure de la stabilité. Ce qu'on veut du côté de M. Legault, c'est s'assurer que sa façon de faire les choses dure plus longtemps que lui.
Ça fait très François Legault, là.
Ça fait très François Legault. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que ça nous rappelle comment les promesses vieillissent mal. Pourquoi je te dis que les promesses vieillissent mal, Pascal? C'est parce qu'en 2006, François Legault, il déchirait sa chemise sur la question des nominations partisanes. Il l'a refait en 2012, en 2014, en 2018. À chaque élection, il venait nous dire comment c'est inacceptable, comment caracac, les nominations partisanes, il n'y en aurait pas. Mais les nominations partisanes, c'est inévitable dans un gouvernement. Parce que tu veux toujours nommer des gens en qui tu as confiance, des gens qui sont de ta gang. C'est toi puis moi, un jour, mettons que toi, Pascal, tu te retrouves en politique, puis qu'on se connaît, puis que tu as des gens de confiance autour de toi, puis que tu as besoin de gens à nommer dans un poste intéressant, ben, tu vas aller vers des gens que tu connais. Donc, tu connais le parcours, avec qui tu as une relation, parce que c'est normal qu'on fasse ça, parce que c'est ça qu'on fait lorsqu'on veut s'entourer de bonnes personnes. On va chercher de la compétence, mais aussi on va chercher de la complicité aussi. Et c'est là où François Legault a fait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir et qu'aucun gouvernement ne peut tenir. Donc là, avis à tous ceux qui nous écoutent. S'il y a quelqu'un au prochain gouvernement qui vous dit qu'il ne fera pas de nomination partisane, c'est de la bullshit.
Un menteur.
Parce que tous les gouvernements font ça. Les gouvernements le font et c'est inévitable.
Victor, entre la politique fédérale, celle provinciale, celle municipale, entre le fait qu'on a un point de presse actuellement de Pierre Poilievre sur les pipelines. Hein, lui, là, il se positionne sur l'essence, puis il parle à travers le monde, puis il veut avoir l'air ministrable et premier ministrable. Mais il y a quelque chose qui revient dans l'actualité. Puis quand on dit que ça nous rattrape toujours, c'est l'ex-maire Vaillancourt du côté de Laval. Aujourd'hui, cette nouvelle-là, je pensais jamais la lire. Allons-y en 2 minutes, mais il va recevoir un chèque, 1 million de dollars, pour payer des impôts sur de l'argent volé.
Bon, là, ce qu'on comprend dans les dernières minutes, c'est que le maire de Laval dit « je ne le ferai jamais, le chèque ». OK, parfait. Donc là, on a une bataille ici. Qu'est-ce qui se passe? Le maire Vaillancourt, il a volé 7 millions de dollars à la ville de Laval qui a remboursé il y a quelques années. Il y avait ça dans des comptes en Suisse. Il l'a redonné à la ville. Mais là, Revenu Canada, il dit « attention, ça, c'est un revenu. Donc, il faut que tu payes tes impôts sur tout revenu ». Parce qu'on comprend, c'est que même quand c'est un revenu qui est issu de la criminalité, et surtout, même quand c'est un revenu que tu as remboursé à la ville. Donc là, la ville se fait dire, ben, faut que tu fasses un chèque de 1 million parce que moi, Revenu Canada, je suis supposé être le premier qui se paye. Revenu Québec aussi devait se payer sur cet argent-là, mais Revenu Québec a renoncé. Moi, je m'attends à ce qu'aujourd'hui, Revenu Canada renonce. M. Champagne, qui est ministre responsable de Revenu Canada, je suis convaincu qu'il est sur le téléphone. Il n'y a personne qui veut vivre avec ça au gouvernement fédéral. Ce million-là doit rester dans les coffres de Laval.
Mais oui, mais oui, mais oui.
Et mon Dieu, que ça aurait été plus simple qu'ils y renoncent dès le début. Et là, ça nous rappelle comment au gouvernement fédéral, des fois, il y a des fonctionnaires qui pèsent sur le enter de l'ordinateur, mais qui ne regardent pas ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là.
Merci beaucoup, Victor Henriquet. C'est vraiment stupide. Puis, ça nous ramène à quel point, des fois, le genre de discours discriminatoire par rapport à la politique, ben, y a raison d'être. Et là, je dis pas dans son ampleur, parce que tu sais que je suis une fervente défendresse de la politique et tout ça, mais ça m'aide pas pantoute en nombre, mais pas du tout, puis je le donne aux auditeurs.
T'as tellement raison. Puis tu sais, Pascal, Soraya Martinez, la mairesse de Montréal, a fait un discours il y a une semaine, puis elle a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. Elle a dit, à un moment donné, on peut-tu se concentrer à bien faire la base avant d'avoir des grands projets?
Ouais.
Et ça, là, c'est tellement la phrase parfaite pour tous les politiciens qui vont essayer de se faire élire, puis je leur passe le message. Occupez-vous de la base. Ça ne sert à rien d'avoir des grands projets si vous n'êtes pas capable de faire les choses de base. Et dans les choses de base, il y a le fait de ne pas aller chercher $1 million dans la poche des Lavallois parce qu'on veut payer les impôts du voleur Vaillancourt qui était là il y a quelques années. C'est le genre de choses où ça rend les citoyens hyper sceptiques. C'est ridicule. Espérons que ça se fasse et qu'on n'aurait pas ça dans les prochaines années.
Et on leur donne. Merci beaucoup, Victor Henriquet. C'est un plaisir de t'avoir parlé aujourd'hui. Analyste politique qu'on peut suivre sur différentes plateformes. À bientôt.
À bientôt.
Salut. Je faisais signe. Non, merci, Victor. Je dois te lâcher, je dois te laisser parce qu'on a un dernier invité dans le Point de Max.
Le Point de Max. Le point, de, point Max. De Max. Restez là. Dans quelques instants, on en jase à Boulevard 102.1.
Et notre dernière invitée du Point de Max, c'est pour parler finances, parce que c'est un aspect qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est qui d'autre qu'on peut appeler dans ce temps-là? Frédéric Boisvert, qui est au bout du fil, président-chef de direction. Frédéric Boisvert, ici à la Chambre de commerce. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à cette fin d'émission à Boulevard 102.1. Vous allez bien?
Bonjour Pascal, tu m'entends bien?
Oui, je t'entends très, très bien. Je te vous vois, c'est parfait. On passe au tutoiement, on se connaît assez pour ça.
Ouais, let's go.
Et on termine l'émission ensemble parce que la semaine passée, j'aurais aimé te parler sur les finances du Québec. Il va y avoir dépôt du budget Girard le 18 mars prochain. Ouais. Et on a des priorités ici dans la ville de Québec. On ne sait pas encore à quoi s'attendre dans ce budget 2026-2027-là, mais tu as eu la fin de semaine pour penser aux priorités. Quelles sont-elles, Frédéric Boisvert?
Bien, écoute, première chose, c'est que, si je peux me permettre, là, un truc qu'on va apprendre lors des dépôts du budget, c'est que les finances s'embellissent au niveau de la réduction du déficit. Ça, c'est clair qu'on s'attend à ce qu'il y ait une réduction de déficit. Maintenant, concrètement, par rapport à la Chambre, nos demandes à nous, c'était clair. C'est que, un, il y a une super déduction fédérale pour la productivité qui fait que tout investissement dans le domaine, par exemple, du manufacturier et autres, tout au niveau des bâtiments industriels, tout ce qui est IA, robotisation, automatisation, ça fait œuvre carrément d'un write-off au niveau des taxes. C'est que, à la limite, à la hauteur que tu investis, tu as un write-off au niveau de tes taxes qui est excellent. Au
Québec, qu'est-ce que tu veux dire? Explique-le, il y a des gens, je suis sûr, qui ne suivent pas, là.
Bon, grosso modo, c'est que, par exemple, t'es dans un bâtiment industriel, tu fais, par exemple, tu connectes ton système de données avec un système d'intelligence artificielle pour augmenter ta productivité. L'entièreté de ton investissement fédéral peut être déduit, donc te permettre de payer moins d'impôts.
D'accord.
C'est comme un crédit d'impôt, là, mais c'est l'équivalent que tu as en réduction d'impôts, la valeur équivalente que tu as investie dans ton entreprise pour la productivité. Ça, à Québec, ils l'ont répliqué, mais en partie, c'est parce qu'ils le font pour plusieurs années. Ils l'étalent. Nous, ce qu'on leur dit, c'est faites ça là, année 1, pour que le Québec devienne un vrai powerhouse manufacturier, industriel de haute technologie et autres. Donc, c'est un point très, très important. Le deuxième, je te dirais, puis ça, tout le monde va comprendre ça, là, c'est la maudite paperasse. Ça, on l'a dit au ministre des Finances, là. Il y a beaucoup, beaucoup trop de requis actuellement au niveau de la conformité des entreprises. Les entrepreneurs là perdent des centaines d'heures par année. Puis pour des petites entreprises de 4 employés moins, là, c'est quasiment du 34 000 $ en temps de travailleurs qui est dépensé dans s'assurer qu'on répond à telle ou à telle réglementation. Puis ça, la réglementation, là, le gouvernement y en pond à toutes les semaines. Là. Fait que là, on a dit, là, c'est assez. Là, là il faut réduire le fardeau réglementaire de nos entrepreneurs. Les entrepreneurs en ont par-dessus la cravate, ils sont plus capables, il faut que ça arrête.
Oui, puis c'est une situation d'urgence quand même là-dedans. Puis Québec est souvent jugé comme étant une région, Frédéric Boisvert. La Chambre de commerce se bat pour ça. Tu es un ancien de la Dévis. Tu sais comment ça marche au niveau commercial ici dans la ville. Et on est un peu souvent l'enfant pauvre de Montréal. As-tu l'impression que ce budget fédéral-là va englober à peu près tout le Québec cette fois-ci ou ça va être encore une concentration montréalaise?
Je pense qu'il y aura, tu sais, que ce soit des mesures, par exemple, la productivité, que ça touche une entreprise de Montréal ou de Lévis ou de Québec, moi, je pense que ça va être quand même, la portée va être provinciale. Peut-être ce à quoi tu fais référence, c'est peut-être des projets d'infrastructure qui seraient mentionnés dans le budget, des projets spécifiques, précis, territoriaux. Ça, pour Québec, on a notre liste. Le maire a fait une liste, mais écoute, va savoir qu'est-ce qui va être exaucé là-dedans. Ouais. Mais chose certaine, moi lorsqu'on s'attend, là, si possible, là, là, si on résumait ça très simplement, là, on veut une baisse du fardeau réglementaire de la maudite paperasserie qui, en retour, justifie toujours des milliers de postes de fonctionnaires dont on n'a pas de besoin à Québec. Fait qu'on peut réduire la taille de l'État, on peut libérer le potentiel de productivité de nos entrepreneurs, première chose. Deuxième chose, allégeons le fardeau fiscal de nos entreprises partout au Québec et à Québec également. C'est le temps plus que jamais dans un contexte de guerre tarifaire, de partenaire commercial, principal partenaire commercial qui nous fait faux bond. Il faut donner de l'oxygène à nos entreprises. Donc, que de réduire le fardeau fiscal, c'est un bet envers l'avenir parce que oui, temporairement, tu te prives de revenus, mais après ça, tu crées une situation de croissance économique qui vient facilement suppléer aux pertes de revenus. Donc, des gains et des récoltes supplémentaires pour le gouvernement parce qu'ils investissent dans nos entreprises. Ça fait que ça, c'est très, très, très important. Puis, dernier point, Pascal, je l'ai mentionné au ministre des Finances, je le mentionne tout le temps régulièrement, on a un gros défi à Québec sur le repreneuriat, le transfert d'entreprises. Il va y avoir plus de 5000 entreprises qui vont changer de main au cours des prochaines années. C'est le plus gros transfert de richesses de l'histoire de la région. C'est des milliards en capitaux. Ça nous prend des programmes qui nous aident pour s'assurer que tous les entrepreneurs âgés entre 50 et 70 ont leur plan de relève et qui peut, pour les repreneurs également, aider lors de la reprise à combler des dettes technologiques. C'est-à-dire, quand tu achètes une entreprise, ben des fois, l'entrepreneur n'a pas investi sur un ERP, sur un système en IA, sur de l'informatisation.
Mais là, ça permettrait d'aller aider.
Ben, ça permettrait, ça l'aiderait à ces repreneurs-là qui vont en avoir plein des bottines au niveau financier, de rembourser des prêts d'acquisition. Ça l'aiderait pour combler cet accord-là, cette dette technologique-là, qui peut devenir très coûteuse au final.
Merci beaucoup, Frédéric Boisvert, président, chef de la direction au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. J'ai l'impression que vos réclamations sont oui pour la ville, mais tellement globales pour la province. Et on va voir ce que nous attend le prochain budget. Comment est-ce qu'on va pouvoir ingérer et appliquer ce prochain budget-là au niveau d'Éric Girard qui a travaillé pour 2026-2027. Ça sera déposé le 18 mars prochain. À la prochaine, Frédéric.
Merci, Pascal. Bye-bye.
Bonne journée. C'est tout pour le Point de Max aujourd'hui. On s'en va dans On en jase avec Jeff Fortin. Restez là à Boulevard 102.1. C'est tout un midi, encore une fois, en actualité qu'on vous a préparé.
Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. 102.1. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1 pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
Profitez de 7 000 à 12 000 $ de rabais et subventions sur les Niro EV et sur des EV4. Avec 10 000 véhicules vendus en 2025, Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Et si tu donnais un sens à ton été? Chez Laura Les Merveilles, chaque journée est une occasion de tisser des liens, de t'amuser et surtout,